Vous écoutez On lit pour vous.
Je refuse une vision du monde en deux dimensions. Un texte de Francis Prévost, paru le 28 février 2026 dans Le Devoir. La polarisation, ou comment on s'est retrouvé à faire de nos opinions des valeurs absolues. Êtes-vous assez vieux pour avoir connu les courriers du cœur, les petites annonces et les lignes ouvertes? On m'a raconté qu'il y a même déjà eu des bars rencontres où chaque table portait un numéro et avait son propre téléphone pour permettre d'appeler une autre table. C'est fou, non? Tout ça avant Internet et les réseaux sociaux. Comme quoi les humains ont besoin depuis toujours de se rassembler, de se retrouver et d'échanger. Les rencontres n'étaient pas toujours physiques, souvent à distance, mais bien réelles, voire vitales et nécessaires. On peut juger la génération précédente en se disant qu'elle est dépassée par les technologies. Mais je préfère me dire que cette génération a connu autre chose, ce qui n'est pas le cas de la nouvelle. Voici comment Internet a détruit le monde et a réussi à transformer toutes les relations interpersonnelles en conflit, en nous mettant en opposition les uns contre les autres. Des articles, des lettres d'opinion, des faits divers, des faits historiques polarisants, des sujets de controverse, des réalités scientifiques et des demi-vérités sont publiés 24 heures sur 24 dans votre fil d'actualité. Mais aussi des tonnes de mensonges et de réalités déformées. Votre humeur s'assombrit, on sollicite vos émotions pures et l'humain que vous êtes n'a pas le choix de réagir. Résultat, vous êtes pour ou contre, mais rien entre les deux. Nous sommes tous tombés dans le panneau. Autrefois, si une dame à l'autre bout de la province appelait une ligne ouverte à la radio pour donner son opinion et que vous étiez en désaccord avec elle, il fallait que vous appeliez à la même station de radio et que vous attendiez votre tour pour répliquer. Entre-temps, vous aviez le temps de réfléchir et l'adrénaline dans votre système pouvait redescendre tranquillement. L'animateur maison avait tout fait de vous modérer et vos propos étaient nuancés une fois que vous étiez en onde. Aujourd'hui, avec le web, vous pouvez écrire directement à l'animateur ou même retrouver la dame et lui proférer des insultes dans le confort de votre domicile, sans bouger et sans vous montrer la face. Ce n'est pas ça qu'on appelle le progrès. Vous ne pouvez plus avoir d'opinion. Vous êtes pour ou contre, c'est noir ou c'est blanc, gauche ou droite, ami ou ennemi, rien entre les deux. Un jour, alors que j'étais plus jeune et que je marchais dans les rues du plateau Mont-Royal, j'ai vu un petit attroupement. Je me suis approché, il y avait un feu. Les passants s'arrêtaient et assistaient à cette triste scène. À l'intérieur, un piano brûlait. Dehors, on pouvait entendre les cordes céder dans un fracas surréaliste. On entendait les sirènes des pompiers qui s'approchaient. Les gens qui s'étaient arrêtés échangeaient des regards complices. Des mamans avec leurs poussettes, des jeunes couples avec leur épicerie dans les bras, des punks, des personnes âgées, des enfants à bicyclette. Une fois le feu éteint, la foule assemblée avait applaudi le travail des pompiers. Un moment bizarre, étrange à vivre, mais si humain. Aujourd'hui, on prendrait l'incendie en photo, on le filmerait, on ferait un selfie avec le feu en arrière-plan, on le commenterait en ligne, et tout ça finirait dans une guerre de mots à n'en plus finir. Pour un feu dont on ne sait rien, au fond. C'est un peu ça, le web. Le père d'un ami m'avait expliqué un jour comment il avait appris à soutenir un regard. Il détestait faire ça lui-même, mais il le faisait pour reconnaître les menteurs et les gens malhonnêtes. Selon lui, c'était un truc infaillible. C'est impossible à reproduire sur le web. Mes années dans les bars m'ont appris que personne n'est lui-même dans un tel contexte. On veut bien paraître et on ne montre que le plus beau de sa personne. Ça ne représente aucunement qui on est dans l'intimité. C'est une parade, une game. Alors imaginez sur le net. Vous croyez avoir réfléchi et vous être fait votre propre opinion parce que vous avez choisi votre camp entre deux responsabilités. Mais où en seriez-vous si on ne s'était pas contenté de ne vous présenter que deux choix? Auriez-vous développé trois ou quatre autres options? Vous ne trouvez pas ça limité que d'avoir à choisir entre seulement deux avis incomplets et impersonnels suggérés par Facebook ou X? Je parle ici de ces idées préfabriquées qu'on nous répète comme un perroquet. Toutes ces idées que nous adoptons et qui ne viennent pas de nous. Pour ma part, j'essaie de me tenir au centre, ni à droite, ni à gauche, et je trouve le moyen de voter quand même, de choisir et de m'exprimer. J'ai plus que deux vitesses. Entre être en Christ ou être en tabernacle, il y a une infinie variété de possibilités. Le monde est en couleur, mais nous, on pense tout en noir et blanc. Vous écoutez, je refuse une vision du monde en deux dimensions. Dites-moi, on a évolué ou on a régressé? On est beaucoup moins baveux et intransigeant en personne. Quand on est devant les gens, on met des gants blancs, on ménage nos transports, comme dit ma mère. Avoir raison, planter l'autre, gagner son point à tout prix au détriment de la vérité, derrière un écran, tout le monde devient une cible et tout ce qu'on dit devient une arme. C'est facile. C'est comme faire la guerre à distance. On ne voit pas l'ennemi tomber sous les balles. On ne voit pas le sang couler. Vous avez une opinion? J'en doute. Je pense plutôt que vous avez lu quelque chose sur Internet et que vous y réagissez. Je pense que vous avez adopté une position morale et que vous la défendez envers et contre tous. Mais une idée, une réflexion, ce n'est pas ça. On n'a jamais eu autant de moyens pour communiquer entre nous, et il ne s'est jamais dit autant de marde. C'est la faute aux moyens ou à ceux qui les utilisent? Les deux, je pense. Si vous êtes de ceux qui pensent que la vraie vie et Internet ne sont pas reliés, sachez que ce qui se passe sur Internet influence directement ce qui se passe en bas de chez vous. Des gens perdent leur job pour avoir trop parlé sur Internet. D'autres se font frauder. Et nous, on se fait mentir. Tout ce qui se passe sur votre écran, c'est la vraie vie. Les algorithmes gèrent même le temps passé sur les applications. Ce n'est plus nous qui gérons notre temps. Vous avez retourné votre télé contre le mur parce qu'il y avait trop de pubs et que les médias traditionnels ne sont pas assez honnêtes. Qu'est-ce que vous foutez sur Internet, alors? Les pires crosseurs et les pires menteurs sont ici. L'info n'est pas triée et y est garrochée n'importe comment. Et ne venez pas me parler des pubs de la télé, parce que je vomis sur commande quand je vois toutes celles que je dois me taper pour regarder une vidéo de 45 minutes sur YouTube. Une vidéo que j'ai plus ou moins choisie, d'ailleurs, parce que c'est mon algorithme qui me l'a suggéré. Pour le libre arbitre, on repassera. Les codes sont truqués et les agresseurs se posent en victime tout en vous frappant. On vous désinforme, on occupe tout l'espace médiatique, puis on vous dit que les médias sont vos ennemis, avec pour résultat que vous ne faites plus confiance à vos propres sources et à votre propre jugement. On sème dans votre cervelle la graine de la méfiance vis-à-vis des scientifiques. Dans cet univers-là, on attaque même les artistes. Et il vous reste quoi au bout du compte? Pour ou contre? Avec nous ou contre nous? Il vous reste ce qu'on vous a dit de penser. Ce qu'on a trouvé de mieux, c'est de se réunir entre gens qui pensent pareil. C'est tellement réconfortant. On pense tous pareil. Ça va bien aller pour penser et décider des choses? Ben non, je ne pense pas que ça marche comme ça. Je pense plutôt qu'on est bon pour se mettre en gang ensemble, dans la marde. Rien de pire qu'un groupe d'imbéciles, même bien intentionnés, qui n'ont en commun que la rage et la certitude d'avoir raison. Fournissez-leur des armes et vous avez tous les ingrédients d'une catastrophe annoncée. Je sais que le monde a changé et qu'il ne redeviendra jamais comme avant. Je voulais juste vous dire que je suis toute là, que j'ai toute ma tête et que je refuse cette vision du monde en deux dimensions. Tant que je vais être capable, je vais me tenir au centre. Je vais résister. c'était « Je refuse une vision du monde en deux dimensions ». Un texte de Francis Prévost paru le 28 février 2026 dans Le Devoir.
Harcèlement N, une ressource désormais bilingue pour les municipalités. Un texte de Jonathan Sema, paru le 5 juin 2026 dans La Liberté. D'abord lancé en anglais par l'Association des municipalités du Manitoba, AMM, et le Strong Cities Network, cette ressource pratique propose des stratégies concrètes pour aider les municipalités du Manitoba à contrer la haine et le harcèlement anti-gouvernementaux. Ce 5 juin, la version en français de cet outil a été rendue possible à la suite d'une collaboration entre l'AMM et l'Association des municipalités bilingues du Manitoba, AMBM, avec le soutien du Center for Social Science Research and Policy, CSSRP, de l'Université du Manitoba. Le guide s'appuie sur des données recueillies auprès d'élus locaux pour aborder des enjeux critiques tels que la désinformation en ligne, les perturbations de réunions publiques et les menaces visant l'intégrité des fonctionnaires. À travers des recommandations ciblées, il distingue les actions nécessaires pour les représentants élus de celles incombant au personnel administratif afin d'assurer leur sécurité mutuelle. Yvan Normandeau, président de la MBM, évoque l'importance de cet outil alors que, selon des données du document, 90% des employés municipaux interrogés ont indiqué que leur municipalité n'offre pas d'informations sur les menaces aux conseillers municipaux et autres responsables locaux. Cet outil va certainement aider les conseillers à se défendre contre toutes ces affaires que l'on observe dans les municipalités, non pas sur une base journalière, mais régulière. Yvan Normandeau, également préfet de la Broquerie, confie voir la montée de cette haine envers les élus municipaux depuis plusieurs années. D'ailleurs, l'on peut se rappeler d'une scène troublante l'an passé. À l'occasion de l'Halloween, une installation représentant la pendaison de politiciens locaux de la municipalité rurale de Taché avait été découverte. Oui, ça fait 12 ans que je fais ceci. Avant, on nous téléphonait pour expliquer des choses. Maintenant, avec les réseaux sociaux et toutes les avenues possibles, c'est rendu vraiment difficile d'être un élu. Il faut toujours se défendre sur Facebook, sur Instagram. Il y a beaucoup de nouvelles qui ne sont pas vraies. De nos jours, j'ai l'impression que les gens croient d'abord ce qu'il y a sur Facebook avant de m'appeler directement pour savoir ce qui se passe. Le harcèlement en ligne et en personne, les insultes discriminatoires et la désinformation sont les défis les plus fréquents, rapporte la boîte à outils. Pour Yvan Normandeau, la haine vient principalement en ligne. Oui, 100%. C'est très rare qu'il y ait du ressentiment face à face. C'est toujours en ligne. Quand je vois que quelqu'un écrit quelque chose en ligne et que je lui demande s'il peut me parler dehors, ce n'est pas possible. La plupart du monde veut faire ceci en ligne, car c'est plus facile. Le représentant de l'AMBM s'inquiète aussi pour les prochaines élections municipales qui auront lieu à la fin du mois d'octobre 2026. Face à une montée alarmante du sentiment anti-gouvernemental ciblant les fonctionnaires locaux, il se pourrait que des personnes ne se présentent pas. Je connais beaucoup de monde qui ne va pas mettre son nom dans un chapeau à la prochaine élection pour cette raison spécifique. Ils trouvent que ça prend beaucoup. C'est trop pour leur famille, c'est trop pour leur santé mentale. Je crois qu'on va perdre de bons élus avec du bon caractère à cause de ce qui se passe de nos jours avec les réseaux sociaux. Yvan Normandeau souligne par ailleurs que cet enjeu n'est pas unique aux municipalités du Manitoba. Présentement, nous sommes à un congrès national de la Fédération canadienne des municipalités. Il y a 2000 délégués ici et tous ont les mêmes problèmes. C'était harcèlement haine. Une ressource désormais bilingue pour les municipalités. Un texte de Jonathan Sema, paru le 5 juin 2026 dans La Liberté.
Le Québec pourrait-il manquer d'eau au cours des prochaines années? Un texte d'Éric-Pierre Champagne paru le 7 juin 2026 dans la presse. Le Québec, paradis de l'eau. Pourrait-il en manquer au cours des prochaines années? C'est ce que craignent des élus et des organisations environnementales qui demandent à Québec de déclencher rapidement un bureau d'audience publique sur l'environnement, BAP, pour aborder cet enjeu. Mon souhait ultime, ce serait que le Conseil des ministres se penche là-dessus avant la fin de la session, d'ici les vacances de l'été, lance Lise Michaud, mairesse de Mercier, municipalité voisine de Châteauguay en Montérégie. Si l'élu juge la situation si urgente, c'est que l'épuisement des sources d'eau souterraines s'accélère dans l'ouest de la Montérégie, où environ 40 % de la population compte sur la nappe phréatique pour son alimentation en eau potable. Conséquence, il faut creuser de plus en plus profondément pour rejoindre les sources d'eau souterraines. Qu'est-ce qu'une nappe phréatique? La nappe phréatique, c'est en gros l'eau contenue dans le sol à une certaine profondeur. Le sol agit comme une éponge et ses réservoirs d'eau se vident et se remplissent au fil du temps, mais si les prélèvements d'eau sont trop importants, ils se remplissent moins rapidement et le niveau de la nappe phréatique se trouve diminué. L'enjeu préoccupe particulièrement la Société de conservation et d'aménagement des bassins versants de la zone Châteauguay, SCABRIC, qui demande au gouvernement du Québec de déployer rapidement un BAP consacré aux pénuries d'eau. L'organisme est appuyé dans ses démarches par les élus des 12 MRC de la Montérégie et ceux de l'agglomération de Longueuil, tout comme une dizaine de groupes environnementaux. Daniel Pilon, président de la SCABRIC, signale que la Montérégie n'est pas la seule région touchée par ce phénomène. C'est vraiment à la grandeur du Québec, avec des problématiques différentes, mentionne-t-il. Selon le ministère de l'Environnement, le quart de la population au Québec dépend des eaux souterraines pour son alimentation en eau. Un problème régulier et récurrent. Le 5 juin 2026, la SCABRIC a écrit à la première ministre Christine Fréchette et à la ministre de l'Environnement Pascale Derry pour demander la tenue d'un BAP. La missive mentionne qu'il est temps pour le gouvernement du Québec d'aborder les pénuries d'eau souterraine qui affectent la région de l'Ouest et de la Montérégie et plusieurs autres régions du Québec. Au Québec, nous avons longtemps cru que l'eau était une ressource infinie, affirme Daniel Pilon, Lise Michaud et Catherine Fournier, mairesse de Longueuil, dans une lettre ouverte publiée aujourd'hui dans la presse. Exit l'époque des lunettes roses. Il faut aujourd'hui faire face à la réalité, ajoutent les signataires, appuyés par une dizaine d'organismes et de nombreux élus de la Montérégie. Je pense que la question de la consommation de l'eau est aussi une très grande question de société qu'on doit se poser collectivement au Québec, soutient Catherine Fournier, qui appuie la démarche à titre de présidente de la table de concertation de la Montérégie. La problématique ne fait que s'aggraver avec les années, rappelle Daniel Pilon. D'après nos études, c'est un problème qui va en s'accentuant depuis 10 ans. Il est temps que le gouvernement agisse. Déjà, en 2014-2015, la SCABRIC identifiait les enjeux quant à la recharge des eaux souterraines. L'organisme a constaté que la situation s'était aggravée dans son plus récent plan directeur de l'eau, publié en 2024. C'est vraiment devenu plus régulier et récurrent comme problème. Et l'an passé, ça a été une année majeure de ce côté-là, le manque d'eau. Et c'est là que les gens ont allumé parce que ça a été une année plus grave que les autres, affirme Daniel Pilon. On va devoir vivre avec ça maintenant, clairement. Je pense que l'adaptation au changement climatique, voilà un effet clair, net et précis, ajoute-t-il. Un constat que partage Alain Primeau, un agriculteur de la région qui siège également au conseil d'administration de la SCABRIC. Ce qu'on observe ici, c'est que la nappe phréatique, elle descend tout le temps et il y a de plus en plus d'utilisateurs d'eau. Les villes sont tout le temps en expansion. Ça demande plus d'eau dans la région et on a 2 usines de captage d'eau. Ça aussi, c'est problématique. Le problème ne fera que s'empirer. Si le constat semble clair, il est difficile de poser un diagnostic précis, faute de données suffisantes, plaident les intervenants. En fait, on est convaincu que les données sur l'eau qu'on a en main ne sont pas du tout exactes. Il y a beaucoup d'omissions dans la transmission des données. Ce n'est pas nécessairement de la malveillance. C'est un constat. On n'a pas des données qui sont à jour, soutient Catherine Fournier. Trop de groupes travaillent en silo, ajoute Daniel Pilon. L'avantage d'un BAP, croit-il, c'est qu'on réunirait tout le monde pour aborder cette question. Si le problème est connu, les solutions seront cependant largement débattues. Dans l'ouest de la Montérégie, le secteur agricole est rapidement montré du doigt considérant son importance dans la région. On a fait beaucoup de sensibilisation auprès de nos utilisateurs résidentiels et commerciaux. C'est un peu plus difficile avec l'agricole. Ce que j'entends, c'est qu'ils ne déclarent pas toujours la quantité réelle qu'ils utilisent, souligne la mairesse de Mercier, Lise Michaud. Tout le monde a un bout de chemin à faire, autant le secteur agricole que résidentiel, rétorque Alain Primo, qui critique au passage le développement urbain qui s'est accéléré. Une chose est sûre, si on attend, le problème ne fera que s'empirer, confirme néanmoins l'agriculteur qui appuie l'idée d'un BAP. C'était « Le Québec pourrait-il manquer d'eau au cours des prochaines années? » un texte d'Éric-Pierre Champagne, paru le 7 juin 2026 dans La Presse.
Ce signal discret dans vos oreilles pourrait annoncer un problème plus profond. Un texte de Véronique Molena, paru le 14 juin 2026 dans Futura Science. Vous entendez des sons que personne d'autre ne perçoit ? Derrière ces acouphènes, parfois anodins, se cache peut-être le début d'un déclin auditif. Mieux vaut les repérer tôt pour préserver son audition et sa qualité de vie. Ça siffle, ça bourdonne, ça bruisse, ça cliquette dans votre oreille et pourtant autour de vous, c'est le silence complet ? Pas de panique. C'est probablement un acouphène. Ce phénomène qui résulte d'un problème de communication entre les oreilles et le cerveau n'est pas grave en lui-même. En revanche, ne le sous-estimez pas, car cela pourrait bien être un premier signe de perte auditive. C'est en tout cas ce qu'affirme le docteur Jackie Price, un otorhino-laryngologiste du Penn State Health, le centre hospitalier de l'État de Pennsylvanie aux États-Unis, interrogé par les journalistes de Science Daily. D'autres troubles auditifs de cet ordre peuvent également marquer le début d'une surdité. C'est le cas de l'hyperacousie, dans laquelle des bruits du quotidien deviennent anormalement forts ou même insupportables, ou encore de la misophonie qui provoque une réaction émotionnelle forte à certains sons. Comment expliquer ce phénomène ? La perception des sons se fait au niveau de la cochlée, une structure en forme de spirale ou de coquillage située dans l'oreille interne. Cette cochlée comporte des cils, en réalité des cellules sensorielles équipées d'une touffe ciliaire composée de quelques dizaines à quelques centaines de villosités cylindriques appelées stéréocils mécanosensibles. Ces cils baignent dans un liquide. Quand une vibration sonore parvient dans l'oreille interne, attention, accrochez-vous, elle met ce liquide en mouvement, ce qui va entraîner un changement de position des villosités de la touffe qui va déclencher l'ouverture de canaux ioniques des cellules et ainsi la création d'un influx nerveux qui informe le cerveau qu'un bruit a été émis dans l'environnement. Quand on vieillit, ou lorsqu'on a soumis durant de longues années ses oreilles à des bruits intenses, environnement de travail bruyant, musique écoutée au casque à volume trop élevé, concert, les cellules ciliées peuvent s'endommager et ne plus transmettre correctement les informations. La communication entre la cochlée et le cerveau peut également être perturbée et contribuer aux fameux bruits fantômes associés aux acouphènes. Un risque de démence, de dépression et même de chute. La survenue d'acouphènes ou d'une gêne auditive mérite d'être prise au sérieux. Les études montrent en effet que ces deux signes peuvent contribuer à un déclin cognitif plus rapide, à un risque accru de dépression et à une augmentation du risque de chute. Ils sont également associés à des troubles du sommeil et de la concentration et à une perturbation des relations sociales. Selon le Dr Price, ils sont le signe qu'il est temps de faire un bilan auditif. Parfois, on pense bien entendre, mais il existe des signes de changement à l'intérieur de l'oreille, comme des lésions des cellules ciliées ou une perte auditive dans les hautes fréquences, explique-t-il. Un test auditif permet de mieux comprendre ce qui se passe et ainsi de mieux gérer ces changements. Même en l'absence de problèmes auditifs évidents, un test peut révéler des signes précoces de lésions et permettre de prendre des mesures pour préserver l'audition et améliorer la qualité de vie à long terme. Quelles sont les options de traitement ? Soyons directs. Il n'existe actuellement aucun traitement curatif pour les acouphènes ou la perte auditive. En revanche, il est possible d'améliorer le fonctionnement quotidien et la qualité de vie, ce qui contribuera à réduire les risques qui y sont associés. La prise en charge des acouphènes consiste à tenter d'alléger les symptômes. Les spécialistes peuvent utiliser les thérapies sonores, bruit blanc, générateur de bruit, ou la rééducation auditive à l'aide d'appareils ou de thérapies de réentraînement des acouphènes, TRT. En cas d'acouphènes perturbant la vie quotidienne et entraînant du stress, de l'anxiété ou une dépression, les médecins peuvent prescrire des médicaments anxiolytiques, antidépresseurs, ou conseiller la thérapie comportementale et cognitive, TCC. La prise en charge d'une surdité consiste à évaluer dans un premier temps la cause et la gravité, et la prescription d'un appareillage ou d'une chirurgie. Protéger son audition avant qu'il ne soit trop tard. Mais le meilleur moyen de réduire les risques de dommages auditifs est de limiter l'exposition au bruit fort. Et pour ça, il ne faut pas hésiter à recourir aux protections auditives lorsqu'on assiste à un concert, un événement sportif, un feu d'artifice ou lorsqu'on utilise des appareils bruyants, tronçonneuses, tondeuses, robots cuisine. Le saviez-vous ? Selon l'INSERM, la surdité toucherait environ 6% des 15-24 ans, 9% des 25-34 ans, 18% des 35-44 ans, plus de 65% des plus de 65 ans. Ainsi, environ un quart des 18-75 ans présenteraient une déficience auditive. Seuls 24% des seniors concernés seraient équipés d'un appareil auditif et près de 4 millions de personnes de plus de 65 ans ne font rien pour compenser leur perte auditive, selon une enquête Opinionway/JNA de février 2026. Les bouchons d'oreilles et les casques anti-bruit doivent avoir un indice de réduction du bruit d'au moins 22 décibels. Cet indice, indiqué sur l'emballage, correspond au niveau de réduction du bruit que le produit peut atténuer. Les bouchons d'oreilles sont efficaces seulement s'ils sont bien mis en place dans le conduit auditif. Avant de les introduire, aplatissez-les, roulez-les, puis tirez sur votre lobe avec l'autre main et insérez le bouchon avant de le laisser se dilater. S'ils sont à usage unique, pensez à les changer. À bon entendeur ou pas. C'était « Ce signal discret dans vos oreilles pourrait annoncer un problème plus profond », un texte de Véronique Molena, paru le 14 juin 2026 dans Futura Science.